Vous écoutez toujours CKUT 90.3 FM et on a Simon en studio avec nous. Puis Simon, il est en tabarnak.
Ben c'est ce que j'ai écrit. Je vais essayer de l'être, là. Je, comme on disait en studio, on va essayer de faire ça radio poubelle, mais quand même, CKUT, ce n'est pas une radio poubelle.
Malheureusement.
Des fois, on aurait le goût de se défouler un peu, hein, quand
ben
même.
Ben oui, quand même.
Mais pourquoi je suis en tabarnak? C'est parce que, bon, suite aux émeutes qu'il y a eu en Suède depuis à peu près 2 semaines, tous les commentaires ou les analyses que j'ai pu lire, ça remettait presque toujours en question le modèle soi-disant multiculturel de la Suède. Et je comprends pas le lien. Ça, c'était un peu comme un postulat. Ça a été, on questionne même pas ce jugement-là, à savoir s'il y a un lien entre multiculturalisme et violence dans les quartiers défavorisés. Et la plupart des analyses partaient de ce fait-là sans plus se poser la question. Et même les médias plus sérieux, que ce soit dans Le Devoir, à Radio-Canada, on faisait le lien toujours entre multiculturalisme et violence dans les quartiers défavorisés. Et j'aimerais ça mettre au défi quelqu'un de m'expliquer c'est quoi le rapport. Hein. Mm. Bref, je ne le comprends pas.
C'est un peu comme les attentats de Boston où on s'est empressé de dire la religion et tout ça des gens qui avaient soi-disant posé les bombes sans jamais expliquer pourquoi la religion avait un lien quelconque avec les
bombes. Sans même que les gens soient formellement accusés et coupables.
Mais tu sais, il y a personne qui s'est réclamé d'une quelconque religion, puis on s'est empressé de décortiquer. Enfin, ça me fait penser à ça, là.
C'est souvent comme ça, puis pour beaucoup de problèmes sociaux ou économiques même, c'est la faute des immigrants en général.
Mm-hmm. On le sait.
Ben oui, c'est ça. C'est pas la majorité qui contrôle son agenda ou son gouvernement. C'est une minorité défavorisée, bien
sûr. C'est sûr, c'est eux qui ont tout le pouvoir.
C'est ça, ceux qui prennent les décisions. Enfin, bref, je suis tanné d'entendre ça, le lien avec le multiculturalisme. Je suis tanné d'entendre que ce sont des violences raciales. On ne le sait pas non plus. On ne sait pas qui fait la casse ou qui est impliqué dans les affrontements. On ne sait pas ces choses-là. Donc, il faudrait les vérifier avant de les répandre. Ces quartiers-là sont pas... ça, c'est le quartier de Osby, là, dans le nord de Stockholm. C'est un peu semblable, c'est un peu le même scénario qu'on a pu voir se produire à Paris ou dans le quartier est de Londres, ou même à Montréal-Nord, si on veut vraiment étirer. C'est pas des quartiers qui sont exclusivement composés d'immigrants. C'est des quartiers qui ont un certain pourcentage, peut-être plus élevé que, mettons, la moyenne de l'agglomération de Stockholm ou de la Suède, là, en termes de pourcentage d'immigrants. Mais c'est peut-être 40% des migrants, donc on n'a aucune idée qui a pu démarrer ces événements-là. Certes, oui, c'est un quartier défavorisé, donc ça, c'est un lien commun, c'est comme un point commun qu'on peut faire avec les endroits qui sont susceptibles d'avoir eu des émeutes. C'est en général des quartiers défavorisés. Donc moi, je regarderais peut-être plus à ce niveau-là. T'sais. Quelles sont les conditions de vie dans ces quartiers-là? Avant de dire que c'est des quartiers immigrants, c'est des immigrants qui partent tout. J'aimerais ça qu'on m'explique urbanistiquement, socialement, le profil sociodémographique de la place, la présence policière, le comportement policier, l'offre de services. Ce sont souvent en Europe, en tout cas, c'est souvent des quartiers de banlieue qui sont assez loin des centres, donc loin des services à desserte régionale, qui ne sont pas toujours bien desservis en transport en commun, qui n'ont pas un ratio de services beaucoup plus élevé que dans des quartiers qui sont beaucoup moins denses. C'est souvent des endroits où les appartements sont petits, sont surpeuplés, donc l'espace public sert de milieu de vie beaucoup plus que pour juste promener son chien ou aller faire du jardin communautaire. Là, c'est comme à Montréal-Nord, c'est un petit peu, mettons, Villanueva, par exemple. C'est des policiers blancs de classe moyenne de Saint-Bruno ou de Sainte-Julie qu'on poste dans des quartiers défavorisés. On va écœurer les jeunes, tu sais, vraiment tous les jours. C'est du profilage racial, c'est du profilage social. Mais les jeunes qui sont dans des parcs, qui se donnent à leurs hobbies, à leurs activités sociales, peu importe, c'est leur salon aussi, parce qu'il y a la grand-mère dans le salon, dans l'appartement, c'est multigénérationnel. Dans un 4,5, on a 12 personnes des fois, donc faut respirer, tu sais, faut vivre. Mm-hmm. Donc tout ça, c'est des facteurs très importants. Donc avant de dire, le multiculturalisme, ça provoque la violence, puis on est trop laxiste. Bon, en tout cas, est-ce que je suis assez fâché?
Je pense que t'as pas encore assez dit tabarnak souvent.
Bon,
Mais à part ça, oui.
Il y a d'autres sacs aussi, il n'y a pas juste tabarnak, là. On a tout un éventail de jolis mots. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ce qu'on lisait, c'est ça, les analyses en général... politique d'immigration trop libérale en Suède, trop d'immigrants en général. Multiculturalisme, j'en ai déjà parlé. On a même dit que la police est trop laxiste et trop peu présente dans ces quartiers-là, alors que beaucoup de gens, c'est plutôt l'analyse contraire, vont dire que la forte présence policière et le comportement policier sont plutôt des sources de conflits que des solutions.
Mais c'est souvent le cas où ça commence quand un policier va avoir tué ou amoché quelqu'un qui habite dans ce quartier-là, d'ailleurs.
Ben, c'était le cas dans ce quartier-là aussi. Ouais, c'est justement un membre de la communauté qui a été assassiné par un policier. S'en sont suivis des nuits... assez violente, là, si on veut. J'ai même lu quelque part les programmes sociaux seraient trop généreux dans ces quartiers-là, comme si une surabondance de programmes sociaux fictifs, parce que c'est pas vrai, là, mais comme si s'il y avait trop de programmes sociaux, ça provoquerait de la violence. Ça non plus, je le comprends pas vraiment. Donc, bon, un petit tabarnak comme ça, parce qu'il m'en restait un, mais je vais finir là-dessus. Donc, sinon, aux apatrides, à la chronique aujourd'hui, je voulais vous parler des soins de santé aux personnes migrantes au Québec. Une évolution dans le dossier. Le contexte, peut-être vous le connaissez, le fédéral s'est retiré de la couverture des soins des personnes migrantes qui arrivaient au Canada l'année passée. Normalement, c'est une juridiction qui est provinciale, mais le fédéral remboursait les soins aux personnes qui avaient besoin de consulter ou de médicaments, ou peu importe la raison. Et l'année passée, le gouvernement Harper a décidé de complètement se retirer sans préavis, en pelletant ça comme responsabilité chez les provinces, mais sans budget, sans consigne, sans... Donc, la plupart des provinces ont réagi comme elles ont pu. Au Québec, la solution qui avait été préconisée, c'était un délai de carence, qu'on appelle. Donc, toute personne, ça incluait nouveau résident permanent de retour au Québec... ou personne en attente de statut, en incluant ben, enfants, personnes âgées, tout ça. Il y avait un délai de carence qui était imposé, donc un délai de 3 mois dans lequel il n'y a pas de couverture financière des soins. Donc on peut consulter, on peut obtenir des soins hospitaliers ou médicaux, mais on les paye, ou si on n'a pas d'argent, on s'en abstient et ce n'est pas remboursé. Il y a eu une... Bien, il y a la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui a statué la semaine dernière, bien, lundi passé en fait, je vais ouvrir les guillemets, que cette exclusion, donc que ce délai de carence est indirectement fondé sur l'origine nationale ou ethnique, puisque la vaste majorité des nouveaux arrivants qui la subissent ne sont pas des citoyens canadiens. Je poursuis. Ce délai d'accès à des soins de santé abordables porte atteinte au droit à la sûreté, à l'intégrité, à la dignité des personnes, des droits qui sont protégés par la Charte, donc ça, on s'en doute. Et sa recommandation, ben, c'est d'abroger complètement ce délai de carence-là. Réaction du ministre québécois de la Santé, Régent Hébert. Il dit, bon, prendre très au sérieux cet avis de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Là, bon, il bafouille, il s'excuse un peu en disant, ben, l'objectif de ce délai de carence-là de 3 mois, ça n'a jamais été de priver les nouveaux arrivants de soins, mais plutôt d'éviter le tourisme médical. Donc, qui n'est pas un phénomène qui est particulièrement important, là. De toute façon, on n'a pas d'études là-dessus, donc c'est un peu n'importe quoi de dire ça. J'imagine que ses conseillers en communication ont travaillé fort pour trouver un spin qui permet de ne pas perdre la face. Tout de même, malgré ses belles excuses, le ministre dit qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire encore. Donc, soit tenir compte de la recommandation de la Commission des droits de la personne, donc abroger ce délai-là de carence et donner des cartes soleil, des cartes de ressources maladie aux personnes migrantes dès leur arrivée, ou offrir un régime de santé particulier pendant les mois que dure le délai de carence. Ça, je ne sais pas à quoi ça servirait, parce que les coûts de santé sont... Au final, c'est les mêmes, là, donc je ne sais pas à quoi ça sert de préconiser une telle solution. Il me reste un petit moment, encore une fois. Donc, allons-y. OK, là, on embarque dans des niaiseries. Donc, vous allez
oui, c'est
content.
Ça. Plein de niaiseries frontalières aberrantes.
Oui, là, j'ai une niaiserie qui est non frontalière. C'est une niaiserie immobilière.
Oh.
En lien avec l'immigration, quand même, il faut le faire. Hein.
Ils sont forts, hein?
Je voyais une publicité récemment. Oui, ils sont forts. Ils ont de l'imagination. c'est un projet de condo de luxe, un projet mixte avec hôtel au centre-ville de Montréal. Ça s'appelle le Point Zéro. C'est la compagnie de linge, la compagnie de vêtements qui se lance dans l'immobilier. Donc, un assez gros projet. Il y a un paragraphe à la fin de la publicité qui a attiré mon attention. Les investisseurs étrangers souhaitant investir dans 3 chambres au minimum pourront obtenir le passeport canadien ou la résidence permanente. Je l'ai relu par la suite, là, parce que j'étais pas sûr d'avoir bien lu. Et ben finalement, c'est un petit filon quand même que j'ai réalisé que oui, effectivement, ça se pouvait, ces choses-là. Ben on sait qu'il y a une catégorie au Canada qui est immigrant investisseur. C'est un programme canadien. Le Québec a son propre programme. C'est la seule province qui gère lui-même. Je l'ai vérifié dans le programme canadien. Les descriptifs, il n'y a aucune mention d'immobilier. Là, qu'en achetant un condo ou une maison à Laval, là, on pourrait obtenir la citoyenneté. Donc, je suis allé finalement plus du côté provincial. Il n'y a pas de mention non plus dans les sites web d'Immigration Québec. Donc, j'ai écrit. J'ai écrit à Immigration Québec. J'ai demandé est-ce que c'est possible, est-ce que je peux avoir plus de détails sur le fait que, bon, par exemple, je connais quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier. Est-ce que c'est vrai qu'il peut obtenir sa résidence permanente? J'ai eu seulement une accusée de réception qui m'invitait à appeler à la ligne générale d'Immigration Québec. Donc, j'ai pas poussé ma recherche plus loin. Je suis pas journaliste d'enquête non plus. Il faudrait mettre peut-être comment s'appellent les animateurs là d'enquête, Raymond Gravel ou Alain Gravel, je ne sais pas trop avec sa face dramatique.
Ou
là,
la facture. Comme...
La facture, oui, c'est ça.
J.E.
Caméra 2013. Enfin, fait que j'ai écrit au promoteur immobilier, il m'a jamais répondu. Donc, peut-être qu'il s'est embarqué trop vite dans la publicité. Par contre, j'ai écrit à une banque aussi. Et on m'a invité fortement à prendre rendez-vous avec un conseiller financier pour négocier une hypothèque.
Ben non.
Donc, je vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Ben, on l'annonce comme tel. Qu'est-ce que ça voudrait dire, en fait? C'est que si je prends une hypothèque sur un bien immobilier, sur un condo de luxe, mettons au centre-ville de Montréal, il y en a beaucoup à 800 000 $ et plus. Là, il y en a plein en construction actuellement. Si j'ai une hypothèque sur un produit comme ça, je suis légalement propriétaire. Donc, le bien d'un million de dollars m'appartient. Donc, je peux entrer dans cette catégorie.
Mm-hmm.
Alors, logiquement, si on se fie à cette logique-là, oui, on peut acheter un condo à 800 000 $ au Québec et obtenir un traitement de faveur et avoir la résidence permanente quasi automatique parce qu'on entre automatiquement dans la catégorie d'immigrants investisseurs.
C'est quoi les montants? C'est, tu sais, 10 piastres sur une loterie, là, c'est-tu assez d'investissement?
C'est 800 000 $
C'est ça le minimum?
Oui, à Québec.
Ah oui, OK.
Je ne sais pas si c'est la même chose ailleurs, là, on pourrait le vérifier, mais à Québec, il faut avoir un bien, soit un compte en banque de 800 000 $ ou une garantie de 800 000 $ d'une banque.
Wow.
Mais un bien immobilier, il semble que oui, et on peut les hypothéquer. Donc, ça me rappelle une citation de Jason Kenney quand il faisait référence à la loi qui durcissait tout ce qui est la loi qui visait à protéger le système d'immigration, qui visait les réseaux de passeurs.
Mm-hmm.
La citoyenneté canadienne n'est pas à vendre. Ben oui, elle est à vendre, M. Kenney, et en plus, on peut prendre une hypothèque dessus. Donc, voilà.
C'est même le prix.
Peut-être qu'il me reste une autre niaiserie.
Ben oui, tu veux-tu que je parte la chanson?
On peut partir la chanson, jouer, ouais. Ça va nous mener vers la sortie. Puis ça va mettre du pep dans nos niaiseries. Donc, fermeture de bureau de citoyenneté Immigration Canada à Buffalo. Immigration Canada a des bureaux partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada. Donc, le bureau de Buffalo traitait les demandes des États-Unis et du Mexique. Je ne sais pas pour le reste de l'Amérique latine. Mais enfin, bref, 900 000 dossiers en traitement actuellement à Buffalo. Le gouvernement fédéral a décidé de le fermer, mais il l'a fermé un mois plus tôt prévu que dans l'échéancier pour des raisons nébuleuses, là, des raisons de cafouillage probablement. Et il y a eu toutes sortes de problèmes. Donc, pas assez d'employés pour faire les boîtes, compagnie d'expédition qui lâche le gouvernement... des documents entreposés dans un sous-sol dont on a perdu la clé et qui n'était pas étiqueté de toute façon. Évidemment, ça fait des délais de traitement indéfiniment prolongés, pas de réponse aux appels des avocats, des demandeurs. Certains demandeurs ont dû quitter le Canada. Des permis de travail non renouvelés. Et une fois les dossiers finalement arrivés à Ottawa, pas assez d'employés pour défaire les boîtes et pour s'occuper de ces dossiers-là parce que le bureau est déjà débordé à Ottawa de toute façon. T'sais. Bref, un magnifique cafouillage conservateur.
Ben oui.
Et une dernière petite niaiserie.
Pour la route?
Pour la route, automatisation des postes frontières, entre le Canada et les États-Unis. Donc, un projet pilote, un petit poste en Estrie et un autre très petit au Manitoba. En Estrie, le poste de Morse's Lines. Je pense pas que c'est une grande métropole. On arrive là, on Skype avec un agent qui est dans un bureau ou qui est dans un autre poste frontalier qui est ouvert 24 heures. Lui décide à distance s'il nous ouvre ou non la barrière. Et si il nous ouvre pas la barrière, il nous transfère, il nous redirige vers un poste ouvert 24 heures qui est plus grand. Donc, bienvenue dans le futur. Là. C'est probablement quelque chose qui s'en vient.
Il va-tu avoir des robots pour fouiller nos chars si on a des drogues ou quelque chose?
Ben, les agents, c'est pas des robots.
Ah,
des
c'est gens, ça! Juste...
Mais c'est éventuellement, ça s'en vient parce qu'on parle de frontières intelligentes. Il y a des milliards qui sont prévus pour ça dans les années à venir. Wow. Intelligentes, voulant beau. Dire électroniques. Là. Voilà.
Donc, tu entrevois la carrière de douanier, c'est pas un métier d'avenir, finalement.
Pour l'instant, oui. Puis en plus, tu as le droit d'avoir une arme depuis que les conservateurs sont au pouvoir, mais oui, ça va être...
Une arme enregistrée. Ah non, ils ont enlevé le...
Ben...
Oh boy!
Que de liens, mon Dieu! Fait que je vais vous laisser là-dessus. On aura d'autres sujets pour les prochaines chroniques. Donc, bonne soirée tout le monde.
Ben ouais, merci.